Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, du Panama au Groenland, les menaces expansionnistes de Donald Trump qui affolent le monde. Moins de deux semaines avant son retour à la Maison-Blanche, le président élu américain multiplie les menaces d'annexion, allant même jusqu'à évoquer un recours à la force pour faire main basse sur le canal de Panama et le Groenland, et promettant par ailleurs une guerre économique à son grand voisin canadien, si ce dernier refuse de devenir le 51e État américain. Provocation ou menace réelle, ces revendications territoriales, ce nouvel impérialisme américain consternent et inquiètent le monde, à commencer par les dirigeants européens qui ont mis en garde hier contre toute violation de leurs frontières. Mais que cherche donc Donald Trump en multipliant ces déclarations hostiles? Entre provocation et volonté de garantir les Américains, jusqu'où ira-t-il? On fait le point ce soir avec nos invités. En ligne avec nous de New York, Romuald Sciurra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, et qui publie dans quelques jours « L'Amérique éclatée » aux éditions Armand Collin. Bonsoir.
Bonsoir.
Également en ligne, Randy Yalouz, avocat franco-américain et président de Republican Overseas France. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et bienvenue à tous les deux sur RFI. Randy Yalouz, si vous me pardonnez l'expression, quelle mouche a donc piqué Donald Trump avec ses menaces d'annexion brutales et qui plus est à la veille de son investiture?
D'abord, M. Trump est connu et suit sa position qu'il a adoptée depuis le début, c'est la provocation. C'est un maître de la provocation, de la communication, afin de déstabiliser non seulement ses alliés avec qui il doit aussi faire face pour reconfigurer les politiques étrangères des États-Unis suite à un mandat des 4 ans de M. Biden. Mais en plus, et on oublie de le dire, le fait que vous faites cette émission et comme d'autres médias, il choque tout le monde, surtout ses alliés. Si les alliés sont choqués par la position de Trump, vous oubliez de dire, c'est surtout ce message qu'il renvoie à M. Trump à ses adversaires, la Russie et la Chine et l'Iran. C'est pour leur faire comprendre que regardez ce que je fais avec mes amis. Demain, je ferai pire avec vous et vous saurez ce qui vous attend si vous ne vous alignez pas sur la politique que je propose entre nous pour que les choses soient plus claires et plus justes au niveau géopolitique, bien entendu dans l'intérêt de l'Amérique, mais il se positionne et ça a fonctionné. On peut avoir déjà constaté vis-à-vis de la Mexique. La Mexique a déjà mis en place avec ses forces militaires dans le sud et dans le nord. Il empêche l'immigration de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale vers les États-Unis. Ils ont commencé à se mettre d'accord déjà avec l'équipe de Trump d'envisager des camps éventuellement de déportation sur le territoire mexicain, même pas pour des personnes des nationalités mexicaines, mais aussi des personnes d'autres nationalités.
Donc la diplomatie de Trump, c'est de brutaliser ses alliés, vous dites, pour envoyer un message à la Russie et à la Chine?
Oui, mais brutaliser aussi, c'est qui il brutalise? Je vous dirais, il a plusieurs soucis. Il a eu un souci notamment avec M. Trudeau, avec qui il a eu déjà des frictions depuis la fin de son mandat. Et c'est avec quelqu'un qui n'a pas respecté. Et demain, il doit engager des discussions et des échanges avec le gouvernement canadien. Il a créé une crise politique au Canada qui a permis d'écarter M. Trudeau en tant que premier ministre. Donc, il arrive à faire évoluer la situation chez les États-Unis. Et surtout, qu'est-ce qui est le message d'envoi au gouvernement canadien? Il envoie un message, trouvez-moi quelqu'un avec qui je peux négocier, avec qui on peut trouver des accords qui sont des accords mutuellement acceptables et n'est pas tourné avec la politique qui a été mise en place depuis des années, qui était contre les intérêts américains.
Romuald Sciorra, est-ce que vous avez été surpris par ces revendications territoriales de Donald Trump, lui qu'on pensait isolationniste et qui se révèle soudainement expansionniste?
Oui, pas vraiment surpris. Cela faisait déjà un petit moment qu'il revendiquait le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Non, ce qui a été plus surprenant hier, c'est la rhétorique. C'est cela pour plusieurs raisons. Prenons le Groenland. Je ne pense pas que Trump puisse décider d'annexer militairement le Groenland dans les prochaines années.
Qui est européen, on le rappelle.
Par contre, exactement. Par contre, et on est passé dans une toute autre dimension. Pourquoi ? Trois choses. Un, comme vous venez de le dire, le Groenland est européen, c'est-à-dire que le Groenland appartient est un territoire autonome du Danemark, membre de l'OTAN. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, un membre de l'OTAN, son membre le plus puissant, le membre fondateur, menace un autre membre de l'Alliance d'annexer militairement une partie de son territoire. C'est du jamais vu.
C'est
si Trump
inouï.
Devait mettre ses menaces à exécution, imaginez ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que normalement, l'ensemble des autres pays de l'OTAN devraient attaquer les États-Unis. Évidemment, on ne va pas y arriver. Néanmoins, il vient une fois encore de porter un coup fatal à l'Alliance Atlantique et au système multilatéral. Deuxième point capital et qui est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est la première fois qu'un chef d'État occidental depuis le milieu du XXe siècle, depuis avant la Seconde Guerre mondiale, parle d'annexion militaire sans se draper sous le prétexte hypocrite d'exporter la démocratie, les droits de l'homme, etc. Même les pires dictateurs du jour, Vladimir Poutine, se cachent sous le prétexte lors de l'invasion d'Ukraine de libérer Kiev des dirigeants nazis, alors que le président est juif, mais bon, ça c'est autre chose. Xi Jinping parle de récupérer Taïwan afin de réunir les frères chinois. Trump, il va cash. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire il parle d'espace vital pour les États-Unis, de nécessité économique, etc. Plus besoin de prétextes hypocrites. Donc rien que ça, c'est évidemment du jamais vu en ce qui concerne le Groenland. Si vous voulez, on peut parler du Canada et du Panama.
Est-ce que c'est, comme l'estime le ministre d'Affaires étrangères français, le retour de la loi du plus fort ?
Oh ben oui, tout à fait. Alors, une fois encore, je ne pense pas que Trump mettra ses menaces à exécution concernant le Groenland, si on entend bien le Groenland. Mais oui, c'est la loi du plus fort. Et nous entrons également dans une autre dimension qui est, même si Trump, effectivement, comme je le dis, ne mettra pas prochainement et lors de son mandat ses menaces à exécution concernant le Groenland, et je précise le Groenland,
on entre
dans une nouvelle ère, c'est-à-dire dans une ère où les ressources naturelles vont commencer à se raréfier de plus en plus. Et d'ici 20, 30, 40 ans, dans un ordre géopolitique totalement différent et déstabilisé, où effectivement c'est le plus fort qui fera la loi, à ce moment-là, le Groenland, mais aussi le Canada, et je fais partie de l'Université du Québec à Montréal comme membre associé, je peux vous dire que mes collègues y réfléchissent sérieusement, le Canada également pourrait, à longue échéance, j'entends sur plusieurs décennies, se poser des questions sur le danger potentiel que pourraient alors représenter des États-Unis assoiffés de ressources naturelles.
Randy Yalloz, est-ce que Donald Trump peut mettre ses menaces à exécution, à votre sens ?
Avec tout respect que je dois à votre commentateur, je crois aussi que c'est la provocation de son analyse. Je pense que il dit l'idéal pour lui, c'est de créer des alliances stratégiques. Groenland entre dans la sphère stratégique et surtout dans le territorial, l'espace qui est pour l'Amérique très important. On sait bien qu'à l'avance, que l'Amérique considère que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ça doit être préservé. C'est son jardin, j'ai une expression en français, j'ai oublié.
C'est la sphère d'influence des États-Unis.
Oui, c'est la sphère d'influence proche de l'États-Unis qu'on considère et qui s'est étendue. Mais pourquoi vers le nord? Il y a deux aspects. Il faut au niveau du commerce international, avec le changement climatique, les trafics maritimes a augmenté de 40 à 50% depuis 10 ans à travers le cercle arctique. Première chose. Deuxième chose, c'est au niveau défensif. Il y a bien sûr des minéraux, il y a des intérêts économiques à Grenland, mais c'est surtout au niveau défensif. On est dans une nouvelle ère avec, on a vu les missiles balistiques et avec l'évolution de la balistique hypersonique qui pose problème. Il faut revoir aujourd'hui les systèmes défensifs anti-balistiques. Et qui va passer, bien entendu, que toute la guerre, les nerfs de la guerre, il faudra avoir des bases et prévoir, parce que toutes les missiles passent par au niveau arctique, et ça, c'est bien entendu, ça va être renforcé avec le Canada, etc. Mais surtout, aujourd'hui, il a un discours très, très fort. Il doit impressionner, non seulement il doit revoir avec ses affaires, parce qu'il va demander des concessions aux pays de l'OTAN. Et il a déjà dit qu'il souhaite des investissements plus importants, il souhaite que les choses évoluent au sein...
Que refuse déjà l'Allemagne.
Oui, mais ça, c'est une période, ça va aussi, c'est une remise en question. Je pense que la période avec Trump, c'est un réel politique pour l'Europe. Aujourd'hui, la passivité de l'Europe, malheureusement, parce qu'on voit que l'Europe est incapable de faire face tout seul à la Russie, et que chaque fois, si on regarde même la question du Proche-Orient, si on regarde l'implication, les Américains sont impliqués, la France a une base militaire aussi en Irak et Syrie, et on voit que les Suez Canal, le canal de Suez, c'est la même chose. Ça protège qui? La plupart du trafic est pour l'Europe. Mais c'est les Américains qui protègent ces trafics maritimes qui passent par là. Aujourd'hui, il y aura des vraies questions qui vont se poser. C'est qu'est-ce que vous, les Européens, pouvez faire pour protéger vos propres intérêts? Aujourd'hui, vous dépendez trop des Américains. Donc, il y aura des questions à revoir par rapport à cela, et qu'aujourd'hui, les Américains doivent revoir, il va se tourner vers les intérêts américains, et je pense que c'est tout à fait légitime de sa part, parce qu'il voit que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, on doit aussi, la question de ses alliés, les alliés, ils ont eu une administration assez passive. Pourquoi passive? Biden a promis pas mal de choses, mais il n'a rien fait. Concrètement, il a laissé la situation rester telle qu'elle est. Il n'a rien fait évoluer au niveau de la situation. Aujourd'hui, Trump dit, je veux revoir ma copie. On paye trop. Je souhaite que les alliés investissent plus. Et que je pense que les réinvestissements tant économiques et défensifs vont permettre à l'Europe de se renforcer. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, ces réinvestissements.
Romald Sciurra, quelle peut être la réaction des Européens? On a vu hier la levée de boucliers concernant la question du Groenland. Est-ce qu'on peut en espérer un électrochoc, obliger l'Europe à se bouger?
Alors tout d'abord, je pense que j'ai peut-être pas été clair ou que votre invité n'a pas bien compris mon propos. Je n'ai jamais dit que Trump allait envahir le Groenland et encore moins le Canada. J'ai tout simplement dit que nous étions rentrés hier avec cette rhétorique dans une nouvelle ère où un membre de l'OTAN menace, car il faut quand même appeler les choses telles qu'elles sont,
c'est la réalité,
il a quand même menacé d'une intervention militaire un autre pays membre de l'OTAN. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où le président des États-Unis ne se cache plus derrière des prétextes droit-mlomistes ou d'expansion de la démocratie, et où il menace frontalement un pays membre de l'OTAN alors qu'il est le membre fondateur de l'OTAN. Pour le Canada, j'ai dit que le danger était sur plusieurs décennies, et tout intellectuel, tout universitaire sérieux doit prendre en considération les choses, et c'est pourquoi l'on pourrait voir un infléchissement, et je vais en venir à l'Europe, un infléchissement de la politique canadienne au cours des prochaines années et des prochaines décennies qui pourrait se tourner plus vers l'Union européenne que vers les États-Unis, en comprenant qu'éventuellement, les États-Unis pourraient être représentés une forme de danger d'ici plusieurs décennies. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter de dire en 2016, Trump ne sera jamais élu. En 2021, le 6 janvier, Trump ne pourra jamais plus faire de politique. Et il y a quelques mois, Trump ne sera jamais président. L'histoire bouge, la géopolitique est en plein mouvement, l'ordre international d'aujourd'hui est en déliquescence. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, pour ce qui est de l'Union européenne, non, malheureusement, et je le regrette, je suis franco-américain, comme vous le savez sans doute, je regrette que l'Europe ne puisse pas répondre d'une seule voix. On a encore vu ce matin, si je ne me trompe, le ministre des Affaires étrangères britannique, ou en tout cas un porte-parole du gouvernement britannique, a dit « no comment », nous ne voulons pas commenter les propos de notre principal allié. Certains, effectivement, le ministre français des Affaires étrangères a rué dans les brancards, ainsi que d'autres représentants européens.
Mais pas l'italienne Meloni, par exemple.
Ben voilà, on a quand même un peu l'impression, pardonnez-moi l'expression, que tout le monde baisse un peu culotte devant le nouvel empereur d'Occident. Je ne crois pas, et je le regrette, à un sursaut européen majeur au cours des prochains mois. Alors peut-être au cours des prochaines années, et de toute façon, votre invité a tout à fait raison lorsque il parle de la nécessité pour les Européens de se réveiller. Peut-être que si Trump va plus loin encore dans ses projets de taxation, etc., etc., de guerre commerciale avec l'Europe, peut-être que nous verrons un sursaut européen. Mais malheureusement, pardonnez-moi d'avoir des doutes, au moment où le nationalisme monte un petit peu partout en Europe, mais aussi en Occident, on le voit au Canada, je crains que le réveil, le sursaut européen ne soit pas pour demain.
Randy Yalloz, on a quand même bien l'impression que l'Europe est particulièrement dans le viseur de la future administration américaine. Il y a donc ces menaces de Trump, il y a également l'activisme diplomatique d'Elon Musk qui déstabilise les Européens, notamment dans son soutien aux extrêmes droites, au Royaume-Uni, en Allemagne.
Vous considérez que ça va être extrême droite Personne, les différents partis peuvent estimer que c'est des patriotes et pour peut-être un réalignement. AfD, oui, il y a des problèmes, ils ont des questions avec l'antisémitisme, mais oui, il y a des problèmes avec des personnes au sein du parti de l'AfD. Ça, c'est des choses à résoudre, mais comme on peut dire, à un moment donné, quand il y avait Mme Meloni aussi, on avait dit la même chose, c'est les droits durs. C'est aussi, donc, on est en train de revoir que les partis de droite se réveillent et qu'il y a un soutien plus accentué de la part des supporters de Trump autour de ces différents futurs éventuellement alliés. Et je pense que c'est normal quelque part parce que les démocrates ont joué ce jeu depuis le début. Il faut le savoir. À l'époque, M. Macron était ici dans la course présidentielle, je crois que c'était en 2016. Il s'est rapproché de M. Obama. M. Obama est intervenu pour le soutenir. Donc, c'est aussi les démocrates jouent le jeu de soutenir des candidats du centre, de gauche, dans les différents pays. Donc, ce n'est pas des choses qui sont inattendues. Il ne faut pas tout de suite dire que M. Farage doit dire oui, c'est un droit patriotique, il a une vision différente. Comme on aurait pu dire qu'il y a 6 mois, 1 an que j'étais sur votre émission, je ne me souviens plus exactement, on a parlé de Trump et vous avez le même discours, alors que maintenant, vous regardez, son victoire était assez conséquent aux États-Unis, très décisive, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la plupart des Américains soutiennent M. Trump et sa politique, ils sont derrière. Vous avez vu même la transition entre les deux administrations, montre que tout le monde va faire confiance à Trump et ils sont en train de voir comment ils vont gérer la future politique de l'Amérique ensemble. Et je pense qu'on trouvera des terrains d'entente avec les démocrates. Donc, il faut dire qu'il y a une évolution, oui, vers la droite, peut-être la droite un peu plus dure, mais il ne faut pas, c'est pas dans l'exagération. Et je pense que ça peut aussi, j'estime que l'influence, il peut être positive. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite dire « Ah, M. Musk a soutenu ». Je crois que M. Trump ou M. Musk ou les autres essaient d'influencer les choses pour faire bouger les choses. Faire bouger, c'est très bien de faire bouger les choses parce que sans changement, on ne verra pas des nouvelles perspectives pour l'Europe.
Et ça risque de bouger, Romuald Ciora, tout ça, ça laisse présager un mandat agité. Donald Trump sur la scène internationale en quelques mots.
Oui, en quelques mots, je voudrais juste revenir sur ce que notre interlocuteur vient de dire en deux mots. Il n'a pas totalement tort quand il parle du bilan déplorable de l'administration Biden quant aux relations internationales. Le chaos dans lequel nous nous trouvons, c'est quand même les démocrates qui en sont responsables. Oui, un mandat très agité, débats à venir.
Et que nous commenterons sur RFI.
On en saura un peu
plus à partir du 21. Merci Romuald Ciora, en direct de New York, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, et merci à Randy Yalloz, président de Republican Overseas France.